Colossiens chapitre 1er. Alors, je me suis rendu compte, c'était, on va dire, assez tranquille pour moi ces dernières semaines, parce que ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas eu à prêcher. On a eu bien sûr le pasteur Abed qui a prêché, il y a Timothy aussi qui a prêché. Je me suis senti presque un peu en vacances, je me suis rendu compte que oui, ça faisait un petit moment et c'est bien sûr toujours une joie de pouvoir ouvrir la parole de Dieu et de pouvoir y plonger nos regards, d'en tirer les enseignements, de voir comment nous pouvons les mettre aussi en pratique dans notre vie. Parce que c'est aussi ça l'objectif pour nous. C'est pas juste d'être des lecteurs et de trouver ça intéressant et dire « Ah, c'est pas mal », etc. Mais c'est de voir comment nous pouvons laisser la parole de Dieu pénétrer notre cœur et nous modeler, nous changer, nous aider à être chaque jour davantage comme le Seigneur Jésus-Christ. Alors bien sûr, nous sommes au mois de janvier, début d'une nouvelle année, et comme c'est la tradition, il y a quelques jours, comme de nombreuses personnalités politiques et autres, on a notre président qui a présenté ses vœux au peuple français pour cette nouvelle année. Et en effet, c'est une coutume, c'est une tradition de faire cela, même quand nous-mêmes, nous revoyons des gens qu'on n'a pas vus, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, etc. Et ça peut durer tout le mois de janvier, c'est l'étiquette, même si on n'a pas vu la personne au début de l'année, on peut encore jusqu'au 31 janvier dire bonne année. Mais voilà, ça m'a fait penser à un passage des Écritures, celui-ci, donc dans Colossiens chapitre 1er, où on voit l'apôtre Paul, lorsqu'il rédige cette épître aux Colossiens. Bon, l'épître aux Colossiens, déjà, il parle de la suprématie de Christ. Ça va être présenté Christ comme il est Dieu, il est le Fils, il est l'égal au Père, etc. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, etc. Et tout ça, c'était en réponse, bien sûr, à des attaques qui se passait dans les églises où, il y avait des faux docteurs qui enseignaient des doctrines concernant Christ qui étaient complètement fausses. Il y avait un mouvement qu'on appelle le gnosticisme où c'est une quête, une recherche de intellectuelle, c'est une compréhension plus intellectuelle des choses, etc. Où on recherche cette amélioration intellectuelle, un peu comme beaucoup des philosophes grecs, etc. Mais voilà, Paul y répond donc à ces attaques par cette lettre. Mais le début de cette épître, nous voyons la prière de Paul pour ses chrétiens de Colosse, ses vœux pour ses chrétiens. Et quelque part, je voulais reprendre ce passage et voilà pour juste présenter ma prière, notre prière pour notre église ici, pour notre assemblée. On va lire à partir du verset 1er pour avoir bien les choses dans le contexte, mais le passage que nous regarderons beaucoup plus ce matin, ce sera à partir du verset 9. Mais on va lire à partir du verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde entier. Il porte des fruits et s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. On voit toujours dans les écrits de Paul l'amour qui l'animait pour les frères et sœurs en Christ. Ces paroles sont empreintes de cet amour-là. Ces paroles sont des paroles d'encouragement, d'exhortation à ces chrétiens de Colosse qui, on a lu leur témoignage, n'est-ce pas? Hein, les versets premiers, hein, jusqu'à verset 8, on voit Paul remercier Dieu parce que ces chrétiens, oui, étaient animés d'un esprit d'amour, celui du Seigneur. Et il était content de voir cela, de ce que leur témoignage, eh bien, se répandait ainsi. Et oui, ma prière, et ça devrait être la prière de chacun d'entre nous, eh bien, c'est que nous puissions nous aussi développer un tel témoignage, un témoignage concret, un témoignage étincelant à l'image de ces chrétiens de Colosse. Et les vœux, les prières de Paul ici devraient être les mêmes, c'est ceux que je vous ai exprimés ce matin, c'est les vœux pour notre assemblée. Vous aurez noté que, bien que cette église de Colosse, elle faisait les choses bien, bien qu'elle avait un témoignage concret et étincelant, on voit Paul quelque part, je veux dire, en remettre une couche, et pas dans le sens où, ah ben, vous pouvez quand même faire mieux que ça, n'est-ce pas? Non. Il les encourage à faire plus. Pas parce qu'ils ne faisaient pas assez, mais parce que le Seigneur est digne de cela. Et donc, la première prière, le premier vœu que nous voyons ici, c'est pour que chacun d'entre nous, eh bien, nous ayons une vie spirituelle instruite. Une vie spirituelle instruite. Une vie pleine de connaissances. Hein, ici, dans ce passage de Colossiens, chapitre 1er, il dit donc au verset 9, c'est pour cela aussi que c'est pour ça que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Une vie spirituelle instruite. Nous avons constamment, quel que soit le nombre d'années de vie chrétienne que nous avons, quel que soit le nombre d'heures qu'on a pu passer à l'église ou même à l'école biblique, dans les instituts, etc., à étudier la parole, même à lire des commentaires bibliques et différents ouvrages sur la parole de Dieu, eh bien, nous devons continuellement chercher à être remplis, non pas juste d'une connaissance générale de la parole de Dieu, mais la connaissance de la volonté de Dieu pour nous. Paul réitère ces mêmes paroles dans son épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 17. Il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, ne soyez pas insensés, ne soyez pas fous, hein, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens, chapitre 5, verset 17. Et donc le mot grec ici que nous avons dans notre passage de Colossiens pour le mot connaissance, c'est ce mot gnosis. Rappelez-vous, hein, je vous ai parlé de ce que il y avait ce mouvement qui infiltrait les églises, ce mouvement gnostique, et forcément, Paul va commencer par cela. Il va commencer par la connaissance la plus importante pour les chrétiens, c'est de connaître ce que Dieu attend de nous et de suivre cette volonté. Mais chose encore plus intéressante, c'est que le mot gnosis ici dans le texte grec du Nouveau Testament, eh bien, il est amplifié par une préposition, la préposition épi. Donc, c'est épignosis. Ça intensifie le sens de la connaissance. C'est-à-dire que la connaissance qu'on doit avoir, non seulement nous devons être remplis de cette connaissance, mais c'est vraiment la connaissance dans son ensemble, pratiquement. C'est la plus grande connaissance à avoir. Il s'agit ici d'une connaissance précise, une connaissance correcte, véritable, et pas juste d'une impression ou d'un sentiment. Parce que souvent, voilà, nous fonctionnons ainsi, on va fonctionner au sentiment, et on va prendre nos décisions par rapport au sentiment, ou à des ressentis. Mais ici, il s'agit d'une connaissance approfondie de ce que Dieu veut pour notre vie. Cette connaissance, elle est très spécifique donc. Il s'agit pour le croyant non seulement de connaître la volonté de Dieu, mais d'en être rempli. Et la grande question pour chacun d'entre nous, et que de nombreux chrétiens se posent à un moment donné, c'est comment connaître cette volonté? N'est-ce pas? Je crois que premièrement, on doit désirer connaître cette volonté. Beaucoup trop souvent, nous vivons notre vie chrétienne avec certaines habitudes ou dans un rythme où, voilà, on ne cherche pas forcément à améliorer quoi que ce soit dans notre vie. On se satisfait un peu de notre vie spirituelle. On ne recherche pas forcément à savoir ce que Dieu veut pour notre propre vie. Mais la première chose que nous devrions faire en tant que chrétiens, en tant que croyants, c'est de savoir ce que Dieu veut pour nous. Dans Jean chapitre 7, verset 17, le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, donc la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Si quelqu'un veut faire, donc il y a d'abord un désir que nous devons développer dans notre vie de vouloir faire la volonté de Dieu, de rechercher à savoir, eh bien, quelles sont les choses à changer dans ma vie, quelles sont les choses à améliorer dans ma vie, pour que je reflète toujours mieux et toujours plus, eh bien, Christ dans ma vie, mais aussi que je sache comment mieux servir le Seigneur. Donc nous devons connaître, chercher à connaître l'Éternel, connaître sa volonté pour nous. Une des deuxièmes choses aussi pour connaître la volonté de Dieu, c'est de vivre une vie où nous dépendons de l'Esprit Saint, où nous nous soumettons à la direction de l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit Saint que, eh bien, nous connaissons les choses. C'est l'Esprit Saint qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. C'est lui qui nous aide à saisir le sens des Écritures et à voir comment nous pouvons les appliquer dans notre vie. Et donc, il nous faut finalement aussi étudier. C'est comme si, ben voilà, Joshua, tes parents, ils partent en voyage et ils te laissent des instructions pour la semaine. Des choses à faire, et puis bon, peut-être beaucoup de choses à ne pas faire. Mais voilà, tu as des instructions. Et puis, 2, 3 jours passent, et puis, ah oui, je sais qu'il y a des choses que je dois faire, mais je ne sais plus. Où est-ce qu'elle est cette liste encore? Alors, il faut que je cherche, où est-ce que je l'ai mise? Et puis, finalement, on la trouve, et puis on se rend compte, oh, j'ai 3 jours de retard dans ce que je devais faire. Mais bon, si le départ, on sait où se trouve l'instruction, et si dès le départ, on prend le temps de lire et d'étudier ces instructions, mais on ne va pas être en retard. On va faire les choses et on va se rendre compte que bah, finalement, ce n'est pas grand-chose ce que je devais faire. Souvent, on pousse nos limites jusqu'au dernier moment et puis on se dit ah! On procrastine, n'est-ce pas? Et je m'inclus là-dedans. Hein, je m'inclus là-dedans. Mais quand il s'agit de connaître la volonté de Dieu, nous savons où la trouver. Dans sa parole, premièrement. Dieu exprime dans sa parole sa volonté générale pour tout être humain. La première, c'est quoi? C'est que chaque être humain vienne à Dieu avec un cœur repentant, qui reconnaisse son péché, place sa foi en Jésus-Christ pour le salut de son âme, et en lui seul seulement. Pas dans nos propres compétences, pas dans nos œuvres, rien de cela, mais en Christ seul. Paul dit à Timothée, dans sa première épître au chapitre 2, verset 4, il parle de la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à quoi? À la connaissance de la vérité. Donc, première chose, bien sûr, de la volonté de Dieu pour tout être humain, c'est qu'il soit sauvé, qu'il vienne à lui avec un cœur repentant. Il s'agit ensuite pour le chrétien qui a compris, voilà, le péché, ça m'a mené à la mort et à la ruine. La vie en Christ me mène vers Dieu et vers une vie nouvelle. Et maintenant, il faut que je sache ce que je dois faire de cette vie nouvelle. Et là encore, Dieu, dans sa parole, nous dit ce que nous devons faire. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 3, Dieu y dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Donc une des premières décisions que le chrétien doit prendre, c'est de dire, maintenant que Dieu m'a sauvé, je veux rejeter le péché. Je ne veux plus faire ces choses-là. Je vais m'efforcer de m'éloigner de tout ce qui peut m'influencer vers le péché et je vais marcher vers ce qui va m'influencer plus vers Dieu. Et donc Dieu veut notre sanctification. La sanctification, c'est ça, c'est se séparer du péché et s'attacher, eh bien, à Dieu. 1 Pierre chapitre 2 et verset 15 nous dit également que c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Donc là vont venir ce qu'on appelle les fameuses bonnes œuvres, ces œuvres spirituelles que Dieu appelle chaque chrétien à accomplir. Mais donc connaître la volonté de Dieu pour sa vie, Il s'agit donc déjà de mettre en pratique ces choses qu'on va dire, entre guillemets, élémentaires. Hein, ce sont les choses évidentes de la vie chrétienne que nous devons connaître, que nous devons accomplir. Je l'ai souvent partagé ce passage parce que il me tient à cœur. Mais Romains chapitre 12, hein, les versets 1 et 2 nous montrent comment nous parvenons à cela. Et Paul y dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, logique. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, soyez différents de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vivez une vie qui soit séparée de ce mode de vie. Soyez transformés, il dit, par le renouvellement de l'intelligence. Donc on en revient quelque part à une certaine connaissance, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire que de notre part, là aussi, pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu pour notre vie, eh bien, il faut que nous nous abandonnions à lui. Lui, il a tout offert pour nous, afin que nous soyons rachetés. Il est logique que de notre côté, eh bien, nous puissions tout lui offrir de notre vie, pour que sa volonté puisse s'accomplir. Si nous vivons par l'esprit, si nous suivons la volonté de Dieu, hein, Paul dit dans Galates 5, 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. C'est-à-dire que si vous êtes chrétien, et comme on le voit dans l'évangile de Jean, il parle de la nouvelle naissance. Hein, la nouvelle naissance, c'est ça, c'est je demande à Dieu pardon pour mes péchés, je place ma foi en Jésus-Christ, et Dieu fait de nous de nouvelles créations, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ce n'est pas une œuvre de notre part, c'est l'œuvre de l'Esprit. Hein, si vous étudiez bien la doctrine hein, concernant le salut, on sait que c'est l'Esprit qui va régénérer le croyant. C'est lui qui va faire cette transformation dans la vie d'une personne pour la passer de un être perdu à un être sauvé, à un ennemi de Dieu à enfant de Dieu. Et c'est l'esprit qui opère cela. Et Paul dit donc, si vous vivez par l'esprit, ça implique que nous devons également marcher selon l'esprit et le laisser nous diriger dans chaque aspect de notre vie. On voit également que cette connaissance, c'est une connaissance spirituelle et pas simplement intellectuelle. On peut passer sa vie à étudier les Écritures, on peut passer sa vie à étudier les doctrines. Ça ne fait pas pour autant de nous la personne que Dieu veut que nous soyons. La connaissance sans la mise en pratique, sans l'obéissance à la volonté du Père, elle est vaine, elle est charnelle, elle est orgueilleuse. Paul, il dit une chose intéressante hein, par rapport à la connaissance. Donc là, on parle de cette connaissance, de la volonté de Dieu, cette connaissance de sa parole, etc. Mais il dit aussi que la connaissance enfle. Hein, dans 1 Corinthiens, chapitre 8 et verset 1, hein, il parle de ce qui était des viandes qui étaient consacrées aux idoles, est-ce qu'il faut, est-ce qu'on a le droit d'en manger, etc. Il y avait tout ce débat-là dans l'église de Corinthe. Mais il dit, nous savons que nous avons tous la connaissance. Les Écritures, on a l'esprit, etc. Mais il dit, la connaissance enfle. C'est-à-dire que la connaissance, si on ne l'utilise pas, elle va avoir tendance à faire de nous des personnes bien orgueilleuses. Hein, des puits de science luminaires célestes. Hein. Mais voilà, sans la mise en pratique, notre foi que vaut-elle? Notre connaissance que vaut-elle? Il dit, la connaissance enfle, mais l'amour, lui, édifie. Donc la connaissance pour laquelle Paul prie ici, c'est pas une simple connaissance intellectuelle, oui, je sais ce que Dieu veut. Non, je sais ce que Dieu veut, et je vais me soumettre à sa volonté, et j'accomplis sa volonté. Il s'agit là de, c'est pas simplement une connaissance, mais on y associe ici, dans ce passage de Colossiens, également la sagesse, n'est-ce pas? La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est d'avoir de la connaissance, mais c'est aussi de savoir utiliser cette connaissance à bon escient. Hein, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, de la science. Hein, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Mais la sagesse, c'est l'aptitude, hein, de prendre des principes, de la parole de Dieu, la connaissance, et de les appliquer. De les mettre en pratique dans notre propre vie. Et donc c'est cette sagesse, cette intelligence spirituelle dont Paul parle ici dans ce passage. Donc la sagesse consiste donc à agir en connaissance de cause. Lorsque nous savons ce que l'Éternel attend de nous, ben, il nous faut agir en conséquence de cela, en obéissance à sa volonté, à sa parole. On ne va pas pouvoir progresser, on ne va pas pouvoir avancer dans notre vie spirituelle, eh bien, si déjà nous n'avons pas la connaissance de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, hein, on ne peut pas savoir ce que Dieu veut pour nous personnellement tant qu'on ne met pas en pratique ce que Dieu il veut pour chaque croyant, pour chaque chrétien. Et donc le chrétien qui a une grande connaissance de la volonté de Dieu, mais qui vit selon la chair, est un insensé. Et il manifeste ainsi que son amour pour Dieu, au final, n'est que du vent. Pourquoi ? Parce que si nous aimons Dieu, nous chercherons à lui plaire, et pour lui plaire, nous allons faire ce qu'il nous demande. Dans la deuxième épître de Jean, hein, verset 6, il nous dit que l'amour consiste à quoi ? À marcher selon ses commandements. Aimer Dieu consiste non seulement à avoir ce sentiment d'amour envers lui, mais de vouloir lui faire plaisir. Et donc de marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Oui, nous sommes libres en Christ. On parle souvent de la liberté chrétienne. Paul en parle dans son épître aux Galates, au chapitre 5, au verset 13. Mais il dit, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. C'est-à-dire, c'est comme si nous avions quelqu'un qui, on sait, il a commis un crime. Il passe devant le juge. On a le procureur qui va venir avec tous les actes commis par cette personne qui devrait normalement le condamner à une peine de prison. Et puis, l'accusé dit « Je reconnais mes torts. Je sais que j'ai mal agi et je vous demande pardon. Je ne recommencerai plus. » Et le juge, par compassion, voulant donner, accorder une seconde chance à cette personne, l'acquitte de tous ses crimes. Cette personne, elle a une liberté maintenant. Elle sort du tribunal libre. Mais il y a une responsabilité avec cela. C'est de ne pas faire de cette liberté une excuse pour refaire ce qu'on faisait dans le passé. N'est-ce pas ? Rendez-vous donc par amour, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette liberté que nous avons en Christ, ce n'est pas une liberté pour continuer à faire ce que nous faisions autrefois. Ce n'est pas une liberté pour dire, ça y est, maintenant je suis sauvé, je suis tranquille, je sais où je vais, et je mène ma vie comme je l'entends. Loin de cela. Deuxième vœu, deuxième prière ici, c'est pour nous d'avoir une vie spirituelle qui soit digne. Une vie spirituelle digne. Et l'objectif de cette connaissance dont nous venons de parler, cette sagesse, cette intelligence spirituelle, c'est pour que nous vivions cette nouvelle vie d'une manière digne, du nom que nous portons, n'est-ce pas ? Chrétien. Disciple de Christ. Nous devons être donc dignes du Seigneur. Être digne du Seigneur, c'est-à-dire que nous devons mener notre vie à la manière de Christ. Ici, le mot « digne » en grec, c'est le mot « axios » qui signifie « de poids égal ». Alors là, c'est énorme. On a toujours cette petite idée vague de « Ah oui, être digne de Christ, je vais faire les choses pour honorer et glorifier Dieu. » Mais là, c'est vraiment l'idée de poids égal. C'est comme si, Jérémy, tu décides à faire de l'athlétisme et allez, je vais faire du saut en hauteur, hein? Et puis, tu as ton entraîneur qui est là, tu te prépares, tu fais tes étirements, tes échauffements, tu te prépares, tu prends ton élan et puis en fait, tu te rends compte que là, ils t'ont mis la barre au record mondial. Si, mais je vais pas y arriver tout de suite, n'est-ce pas? Je ne vais pas pouvoir franchir cette barre-là tout de suite. Et c'est évident. C'est évident que quand nous venons à Christ, comme nous sommes des enfants nouveau-nés en Christ, on va pas pouvoir franchir ces records-là. Mais ce que Dieu veut que nous fassions, bien, c'est que nous suivions l'entraînement, que nous écoutions les conseils de l'entraîneur, et que petit à petit, eh bien, on commence avec la barre un peu ici, et puis, oh, j'y suis arrivé. Je crois que je peux essayer encore un peu plus. Puis on essaye un peu plus et on fait ses efforts pour essayer de surmonter, de surpasser ce record. Et donc les croyants doivent égaler les normes de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Il dit, soyez saints car je suis saint. Il veut que nous soyons comme lui. C'est ce à quoi il nous appelle. Et Paul, il réitère ces mêmes propos et principes dans plusieurs de ses épîtres, dans Thessaloniciens, dans Éphésiens et dans Philippiens, de marcher d'une manière digne du Seigneur. Ah, pour nous, la question, c'est maintenant, mais ce que mes choix de vie, eh bien, c'est d'un point égal à ceux de Christ. Est-ce que ça va même dans ce sens-là? Où je me dis, ben, je vais enlever la barre et je vais juste sauter ce que je peux. Comme ça, il n'y a même pas d'effort, trop d'efforts à fournir. Est-ce que mon comportement reflète le Seigneur? Est-ce que mon langage également reflète celui du Seigneur? Est-ce que je peux dire comme Paul, et ce sans aucune hésitation, hein, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? Est-ce que je suis capable de dire cela? Sommes-nous donc entièrement agréables à Christ? Hein, tous les aspects ici de ma vie doivent avoir pour objectif de glorifier et d'honorer Christ. Notez bien, pour marcher, verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Entièrement, pas juste un tout petit peu, pas juste 10%. Hein, pas juste ben, cet aspect-là de ma vie, je vais être agréable à Dieu, mais je vais me permettre quelques aspects ici où. Entièrement. C'est notre vie entière, notre être tout entier. Nous devons donc modeler notre vie sur celle de Christ, rechercher à lui plaire dans tous les aspects de notre vie. Et donc par une conduite digne de Christ, nous pourrons alors lui être entièrement agréables. Nous lui sommes agréables lorsque, comme on vient de le voir précédemment, lorsque nous mettons en pratique sa volonté pour notre vie. Pensez-y. Si vous étiez un chef d'entreprise et que vous ayez un employé, vous l'avez signé, vous avez signé le contrat avec lui, voilà les tâches que tu as à faire, les choses que tu dois faire, et que finalement cet employé ne fait que 15% de ce qui lui est demandé. Est-ce que vous seriez content d'avoir un ouvrier comme cela? Un ouvrier que vous payez? Non. Dieu nous a donné en Christ une nouvelle vie. Il nous a accordé son pardon, sa grâce, la vie éternelle. Il a fait de nous ses enfants. Qu'est-ce que nous redonnons à Dieu en retour pour cela? Et donc nous lui sommes agréables lorsque nous mettons donc en pratique sa volonté. Et en anticipant, en accomplissant la volonté du Seigneur dans notre vie, bien nous lui serons donc agréable. Mais pour cela, il y a une chose importante. Paul, dans Éphésiens chapitre 5 et verset 10, il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez. Ça requiert de notre part, eh bien, cette recherche d'étudier sa parole, de comprendre ce que Dieu attend de nous et de faire ce que Dieu attend de nous. Mais il nous faut examiner les Écritures pour cela. Troisième vœu et troisième prière pour nous ce matin, c'est pour d'avoir une vie spirituelle fructueuse. C'est-à-dire que la vie que Dieu nous a accordée, C'est pas simplement d'avoir une connaissance, c'est pas simplement, eh bien, d'être digne de Christ, de chercher à lui être agréable, mais il nous a appelés à porter du fruit. Et donc, en cherchant la volonté de Dieu, en la mettant en pratique dans notre vie, c'est là que nous allons pouvoir commencer, eh bien, à porter du fruit, une multiplicité de fruits, et à accomplir toutes sortes de bonnes œuvres. Le Seigneur Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Porter du fruit, c'est quoi? C'est-à-dire que ce que nous avons reçu de Christ, l'enseignement que nous avons de sa parole, que nous le mettions en pratique, et on va voir les résultats par des changements déjà dans notre propre vie, mais aussi par l'impact que nous allons pouvoir avoir dans la vie des autres. Les fruits spirituels, eh bien, le premier fruit spirituel, eh bien, c'est la nouvelle naissance, c'est le salut. Hein. Voilà un fruit spirituel le plus important pour chaque être humain. Mais ensuite, on connaît bien Galates chapitre 5, hein, versets 22 et 23, qui nous parle du fruit de l'esprit. Hein, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, eh bien, qui cherche la volonté de Dieu, qui se soumet à la volonté de Dieu, qui met en pratique ce que les Écritures demandent, et dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Hein, et la loi n'est pas contre ces choses. Bien au contraire, Dieu veut que nous ayons ce genre de résultat-là dans notre vie. Alors, on pourrait prendre le temps de regarder et de cocher l'amour. Oui, ça va, ça peut être mieux. Hein, c'est un peu comme les bulletins, là, passable. La joie. Est-ce que, comme Paul nous le dit de l'être, est-ce que nous sommes toujours joyeux? Hein, cette paix, cette patience, cette bonté, ces fruits que Dieu veut voir dans notre vie, eh bien, Dieu, il a tout pourvu pour que nous puissions les avoir, pour que nous puissions les porter. Et donc ces bonnes œuvres que Dieu nous appelle à accomplir, eh bien, c'est en Christ, par l'Esprit Saint, par son œuvre en nous que nous pouvons les faire. Paul, il dit que la vie du croyant, à partir du moment où voilà, il s'est repenti et il a reçu le pardon de Dieu, il dit en Romains 6, 22, maintenant étant affranchi du péché, c'est-à-dire libéré. On n'est plus esclave du péché, plus esclave hein, de ses conséquences, etc. Étant affranchi du péché, et notez bien, devenu esclave de Dieu. Oh, comment ça, esclave? Il faut bien, encore une fois, remettre les choses dans leur contexte déjà culturel et historique par rapport au mot esclave. Mais de qui faut-il être le... Qu'y a-t-il de mieux dans notre vie? Être esclave du péché ou esclave de Dieu? Si on fait face à ce choix-là, où on sait que esclave du péché, ça nous mène à la ruine et à la mort et à la séparation avec Dieu pour l'éternité, et esclave de Dieu, c'est servir Dieu, mais en même temps, il a fait de moi son enfant. Nous sommes frères et sœurs en Christ, mais aussi de Christ. Il nous a appelés à une nation sainte, un sacerdoce royal. Des choses extraordinaires. Donc là, oui, le choix, il devait être évident. Je préfère être esclave de Dieu, servir le Seigneur, plutôt que de mener une vie qui me mène vers la ruine. Mais voilà, ce sont ces bonnes œuvres que le Seigneur attend de nous. Qu'est-ce qui va donc produire ce fruit dans notre vie? Ça va être notre relation avec le Seigneur Jésus lui-même. Le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 15, versets 4 et 5, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Alors, je ne nie pas qu'il y ait des personnes non chrétiennes, inconverties, qui font des œuvres qui sont bonnes pour les autres. Mais nous ne sommes pas en train de parler de ces œuvres-là ici. Nous sommes en train de parler d'œuvres spirituelles. Et sans appartenir à Christ, sans être attaché à Christ, nous ne pouvons pas accomplir ces œuvres spirituelles. Cette sagesse également dont nous venons de parler il y a quelques instants est nécessaire pour porter du fruit. Hein, comme Jacques le rappelle au chapitre 3, il nous parle de la sagesse d'en haut qui est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. La sagesse va être nécessaire à ce que nous portions des fruits. Par contre, le manque de fruits est directement lié au manque de sagesse spirituelle. Il y a des efforts à accomplir, certes. Pierre en parle. Hein, dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 8, il dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la connaissance la maîtrise de soi à la patience la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est-à-dire que ces fruits spirituels vont toujours nous pousser à vouloir en produire plus. Ça ne va pas nous laisser inactifs, oisifs. Et puis finalement, Dieu, dans sa parole, nous appelle à avoir une vie spirituelle perfectionnée. Hein, dans notre série de messages sur l'Église, on a parlé que Dieu a donné l'Église pour le perfectionnement des saints, n'est-ce pas? Mais ici, le vœu, la prière de l'apôtre Paul dans notre passage de Colossiens, c'est également la même chose. Verset 11, il nous dit « Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. » C'est-à-dire que lorsque nous avons fait déjà toutes ces choses requises, en accomplissant les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, c'est là que nous allons voir cette croissance spirituelle se produire dans notre vie. Tout à l'heure, on a parlé d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Mais nous devons aussi examiner ce qui, dans notre vie, n'est pas agréable au Seigneur. Ce qui doit être retiré, ôté. Une introspection à la lumière des Écritures, parce que voilà, c'est la parole de Dieu qui nous montre encore une fois ce qui ne va pas. Jacques, toujours hein, dans son épître, chapitre 1er, verset 22 à 25, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » C'est-à-dire que là, il est en train de dire « Vous pouvez avoir une connaissance des Écritures, mais il faut la mettre en pratique. Si vous ne mettez pas cette connaissance en pratique, ben vous êtes juste en train d'écouter, vous vous trompez vous-même et vous finissez par avoir de faux raisonnements sur ce que l'Écriture dit. Mais il dit au verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Ça, c'est inutile. Si on est juste des lecteurs comme ça, superficiels, c'est inutile. Mais si on examine, si on étudie et on cherche à voir comment on peut mettre ça en pratique dans notre vie, eh bien là, on est dans la bonne voie. Il dit au verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Ces gens qui, en début d'année, vous souhaitent mes meilleurs vœux, une bonne santé, une bonne vie, que vous soyez heureux, etc. Dieu nous montre que la seule et véritable manière d'être heureux dans la vie, eh bien, c'est de le connaître. Pas simplement de le connaître, mais aussi de vivre pour lui. Est-ce qu'au cours de cette année passée, nous avons laissé le Seigneur, eh bien, nous perfectionner? Est-ce que nous avons plongé nos regards dans la parole de Dieu pour en tirer ce dont nous avons besoin pour progresser, pour être davantage à l'image de Christ? Ou est-ce qu'on a continué avec notre train-train quotidien, à vivre comme bon nous semble. Dans 2 Corinthiens 13, Paul nous dit de nous examiner. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Et cette question, ne reconnaissez-vous pas que Christ, que Jésus-Christ est en vous? Est-ce qu'en examinant sa vie aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, ouais, on peut voir Christ à travers moi? Est-ce que vous reconnaissez Christ dans votre propre vie? Est-ce que j'ai progressé spirituellement ou est-ce que j'ai rétrogradé? Est-ce que je suis plus proche du Seigneur ou est-ce que je m'en suis éloigné? Est-ce que je me suis davantage engagé au service du Seigneur? Est-ce que j'ai facilité ou nui à l'expansion de la parole de Dieu par ma vie, par mes œuvres, par mes paroles? Est-ce que j'ai réellement fait tout ce que j'aurais pu faire compte tenu, eh bien, des dons, des talents, du temps, des moyens que Dieu m'a confiés? Est-ce que dans ma vie, j'ai donné la priorité, eh bien, à la vie spirituelle? Une croissance spirituelle continuelle par la connaissance de Dieu aura un effet certain. Et cet effet, c'est un amour plus profond pour Dieu et pour sa parole. Comme le psalmiste, hein, psaume 119, verset 97, il dit « Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Est-ce que nous sommes parvenus à un tel, quelque part, état d'esprit d'aimer la parole de Dieu à ce point-là? Ensuite, une obéissance toujours plus parfaite. Toujours Jean, dans sa première épître, chapitre 2 et verset 5, il dit, si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole, et par cela, nous savons que nous sommes en lui. Si nous avons ce désir de faire ce que Dieu demande, si nous avons ce désir de lui être agréable et que nous mettons tout en œuvre dans notre vie pour parvenir à cette fin-là, eh bien, nous verrons cette croissance spirituelle. Ensuite, un fondement doctrinal solide. Dans cette même épître de Jean, toujours au chapitre 2, versets 12 à 14, il dit, je vous écris petits-enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit petits-enfants parce que vous avez connu le père. Je vous ai écrit père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts. Notez bien la raison pour laquelle ils sont forts aussi. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Or, il y a un lien indissociable entre progression spirituelle et la place que nous donnons à la parole de Dieu dans notre vie. Cela nous amènera également à une foi plus profonde, à faire de grands progrès, comme Paul en parle dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er et verset 3. Hein, il dit, nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. C'est-à-dire que la vie chrétienne, c'est une vie de progression, c'est une vie de perfectionnement. Et nous devons rechercher cela. Et nous devons aimer cette idée-là que Dieu veut nous aider, nous transformer en ce qu'il y a de mieux à ses yeux. Pas ce qu'il y a de mieux aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu. Et donc ce perfectionnement va nous fortifier donc dans tous les aspects de notre vie chrétienne. Non pas par une connaissance intellectuelle, ni même par des sentiments, et encore moins par nos propres capacités, mais, comme Paul en parle dans Colossiens ici, par la puissance glorieuse de Dieu. Paul emploie ici des termes très forts et très spécifiques pour exprimer cette vérité. On retrouve pour, bien sûr, le mot puissance, le mot rendu fort, hein, fortifié. Pour le mot fortifié, en fait, c'est le mot dynamo, hein, on a dynamite qui vient de ce mot-là. Mais voilà, rendu fort, confirmé, renforcé, revigoré, ça, c'est ce que ce mot veut dire. Un fortifié à tous égards, donc dans tous les aspects. Et ensuite, pour la puissance de Dieu, le terme employé en grec, c'est kratos. Et ce terme désigne une puissance qui surpasse toute résistance. Rien ne peut l'arrêter. C'est une force souveraine. Et dans le Nouveau Testament, hein, ce mot est attribué à Dieu, je crois, 11 fois sur 12 à peu près. Ce que Paul nous dit ici, c'est que la force dont nous pouvons disposer pour être fortifiés, eh bien, c'est la puissance illimitée du Créateur. Inépuisable, inaltérable, continuel. Un autre mot qu'il emploie même dans ce passage-là, c'est le mot glorieux. Dans le grec, c'est le terme doxa. Hein. C'est de ce mot-là qu'on a le mot doxologie. Hein. C'est tout ce qui se rapporte à la louange de Dieu. Donc le mot doxa est relatif à la manifestation des attributs de Dieu. Et donc, on a ces termes. Donc, rendu fort, renforcé, revigoré, dynamo, kratos, qui est cette puissance inarrêtable de Dieu, et ce mot glorieux, doxa. Ça, c'est ce que Dieu met à notre disposition. En sachant cela, quelle est donc notre excuse pour ne pas progresser? Quelle est notre excuse pour ne pas nous mettre sous l'enseignement du coach parfait, là? Qu'est-ce qui nous empêche de cela? On en revient à notre volonté propre. C'est une décision que nous devons chacun prendre personnellement. La puissance de Dieu va se manifester dans notre vie lorsque nous désirons et nous laissons Dieu agir dans notre vie. Il va le faire par sa parole, il le fait par l'Esprit Saint, qui est cette force qu'il avait promis à ses disciples. Et voilà, cette puissance, elle est là, elle est à notre disposition. Est-ce qu'on réalise seulement l'importance et la grandeur de la connaissance de Dieu, de sa parole, de sa volonté et de sa puissance qu'il met à notre disposition? Et donc, on en a toutes ces choses ensemble. Paul, finalement, il nous dit, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patience. Tout cela, ça va nous affermir. Tout cela, ça va nous pousser, nous encourager à la continuité. Hein, l'effet que nous connaîtrons en étant remplis de la connaissance, de la volonté divine, remplis de sagesse, d'intelligence spirituelle, en marchant d'une manière digne de Christ, recherchant sa gloire, en portant les fruits spirituels que nos bonnes œuvres susciteront, fortifiés par la puissance divine, eh bien, c'est la joie, la persévérance et la patience en attendant la bienheureuse espérance, en attendant le retour de notre Seigneur. C'est quoi la persévérance? La persévérance se définit par le refus de se laisser intimider par les moments difficiles. On sait qu'il y a des obstacles, on sait que ça va être difficile, mais je vais le faire. Et je vais continuer à le faire. Persévérance, persistance. Et cette patience que Paul mentionne évoque également, quelque part, un aspect un peu plus social, parce que la patience, c'est pour qui? Généralement, la patience, c'est généralement envers les autres dont on a besoin, n'est-ce pas? La patience se manifeste dans nos rapports avec les autres. Être patient, c'est donc surmonter, eh bien, les effets de, eh bien, il y a plein d'épreuves, c'est difficile, hein, on en a marre, mais je veux continuer. Et puis, parfois, dans nos relations avec les autres, il peut y avoir de l'incompréhension, il peut y avoir de la méchanceté, il peut y avoir toutes sortes de choses que l'on subit, mais je refuse d'être contrarié par tout cela. Je refuse de retenir tout cela et de les laisser me ralentir, voire me stopper dans ma progression spirituelle. Et donc, la patience, la persévérance. Et Paul explique ici que la conséquence, donc, de la véritable connaissance spirituelle de la volonté de Dieu, ça va être de pouvoir endurer ces épreuves que nous connaissons. Pas simplement de les endurer, mais notez bien qu'il y a ce petit mot-là de trois lettres, si important, la joie. Comment est-il possible d'avoir la joie dans les difficultés, dans les épreuves? On en revient au tout début, que nous soyons remplis de la connaissance de Dieu pour notre vie. Et là, c'est comme des dominos. Tu fais ça, paf, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Et on en arrive à cela. On en arrive à être persévérant, à être patient et rempli de joie. Et donc pour conclure, pour reprendre en quelque sorte les paroles de l'apôtre Paul, mon vœu, ma prière à Dieu, pour chacun d'entre nous, pour cette nouvelle année, c'est ce que Paul mentionne ici dans ce passage. Que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse, intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours, pas juste un petit peu de temps, pas de manière sporadique, mais toujours et avec joie, persévérant et patient. Que nous marchions donc de progrès en progrès au service du Seigneur et à sa gloire. Prions. Père, nous voulons te remercier pour ton amour et ta grâce envers nous. Te remercier de ce que tu ne nous as pas laissé embourber dans notre péché, mais que tu as tendu la main vers nous, que tu as donné ton Fils pour qu'il donne sa vie en sacrifice pour le rachat de notre âme, pour que nous puissions être entièrement et pour toujours pardonnés, mais également entièrement refaits à neuf. Et Seigneur, nous te remercions de cela. Mais nous prions aussi pour que bien cette grâce que nous avons reçue, eh bien que nous ne la rendions pas quelque part inutile par notre refus de vouloir vivre pour toi, de chercher ta volonté, de la faire, et de refuser même de progresser dans notre vie spirituelle. Seigneur, que nous ne soyons pas ingrats par rapport à ce que tu as accompli pour nous, mais que nous puissions saisir toutes les occasions possibles dans notre vie, et bien de te remercier, de t'honorer, te glorifier. Et la plus grande manière pour nous de faire cela, c'est ce que tu nous demandes de faire. D'être comme toi, saint, juste, plein d'amour, de grâce, de miséricorde, de compassion. Seigneur, que nous soyons donc à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Et je prie pour que tu puisses agir ainsi dans notre vie, dans notre petite assemblée, pour que nous puissions avoir, eh bien, un témoignage aussi étincelant et concret que celui de nos frères et sœurs il y a quelques 2000 ans de cela à Colosse. Seigneur, que tu puisses agir ainsi en nous, à travers nous, et que tu trouves en chacun de nous, Seigneur, eh bien des chrétiens, des chrétiennes qui te ressemblent. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je prie. Amen.